Chapitre 8. De leur côté, Antoine et Octave se préparaient au combat. Voyant que Brutus et Cassius ne venaient pas les chercher, ils résolurent de marcher à eux. Ils laissèrent en effet le commandement et le gouvernement de Rome à Lépidus, traversèrent la mer et entrèrent en Macédoine en marchant de l'Occident vers l'Orient, tandis que, de leur côté, Brutus et Cassius y entraient en marchant de l'Orient à l'Occident. Que nos lecteurs nous laissent leur donner une idée des localités où va se dénouer le drame que nous leur racontons. Supposons donc que nous nous rendions par terre de Paris à Constantinople et qu'après une halte à Salonique, nous nous remettions en chemin. Nous ferons d'abord 30 lieues à peu près dans un pays plus pittoresque et plus varié que facile. Nous arriverons au lac de Langassa. Après le lac de Langassa, nous traverserons les belles prairies du Clisélie. Puis nous atteindrons le lac Bolbe et le golfe de Comtesse, dont nous côtoierons pendant quelque temps les rivages. Alors nous quitterons la grande route qui nous eut conduit à Orfana pour rejoindre le chemin de Cérès à Constantinople. En suivant cette ligne, nous arriverons sur les rives d'un lac plus grand que les deux autres. C'est le lac Strymon ou le lac Cercinétis des Anciens. Bientôt, nous nous heurterons à des ruines qui sont celles de l'antique Amphipolis. Prenons, au lieu de continuer vers le sud, ce chemin qui bifurque à gauche, nous longerons les flancs du mont Pangée, si célèbre dans l'Antiquité par ses mines d'or, nous traverserons l'étroite vallée qu'il forme, et tout à coup, un splendide spectacle se présentera à nos yeux. C'est une vaste plaine, longue de 8 lieues du nord au sud, large de 4 lieues de l'est à l'ouest. La rivière Angista la rafraîchit et la féconde, son sol est d'une prodigieuse fertilité. Dans les bas-lieux, ce sont des rivières ou de vertes prairies. Dans les parties les plus élevées, ce sont des plantations de tabac ou de coton. Sur les coteaux, des vignobles. Enfin, au sommet des montagnes, de magnifiques forêts. Ces montagnes forment un cirque immense, bâti par la main de Dieu, et qui, comme tout ce qui sort de cette main céleste, écrase les cirques humains. La plus haute de ces chaînes de montagnes vous fait face au moment où vous entrez dans la plaine par la route indiquée. Si vous continuez votre chemin et que vous marchiez droit à elle, vous verrez, s'élançant d'une espèce de plateau, un énorme rocher supportant des ruines de murailles, et quand vous aurez gravi cette hauteur, vous dominerez les débris d'un théâtre et d'une ville antique, à la droite et à la gauche de laquelle vous apercevrez 2 villes modernes, Drama et Alistrati. Enfin, à votre gauche, le port de Kavala, patrie de Mehemet Ali. Si vous demandez à quelque pâtre faisant paître ses troupeaux au ciel de ce rocher ou au penchant de cette chaîne de montagne le nom de cette ville morte qui se trouve au milieu de ces 2 villes vivantes, il vous répondra insoucieusement « On l'appelait Philippi ». Vous êtes sur la place même où le mauvais génie de Brutus lui avait donné rendez-vous. Vous avez sous les yeux cette plaine à laquelle le grec Plutarque donne le nom latin de Campos Philippos. Brutus et Cassius y étaient arrivés après avoir soumis la plupart des villes voisines, après s'être rendus maîtres de tout le pays jusqu'à la mer de Tassos, après avoir surpris et enveloppé Orbanus, lieutenant d'Antoine, dans un lieu appelé les Détroits, c'est-à-dire dans une des ramifications du mont Pangée. Antoine y était arrivé le premier, doublant les étapes pour secourir son lieutenant et faisant une telle diligence que ni Brutus ni Cassius ne voulaient croire à sa présence. Octave, toujours malade et lent, lorsqu'il fallait marcher au-devant d'une action décisive, y était arrivé 10 jours après Antoine. Il avait campé en face de Brutus et Antoine en face de Cassius. C'est l'espace compris entre les deux camps que Plutarque appelle Campos Philippos, les champs de Philippe. Jamais, même au temps des grandes batailles de César, même à Pharsale, on n'avait vu 2 armées romaines si considérables en face l'une de l'autre. Celle de Brutus et de Cassius était beaucoup moins nombreuse que celle d'Octave et d'Antoine, mais elle était bien autrement magnifique. Presque toutes les armes, dit Plutarque, étaient d'or ou d'argent. En effet, Brutus, qui voulait que ses officiers et ses soldats fussent simples et modestes dans tout le reste, leur permettait, leur recommandait même le luxe des armes, persuadé qu'il était que le combattant tient à son armure en raison de sa richesse et de sa beauté. Cependant, les présages, ces fatidiques événements qui tiennent une si grande place dans la vie antique, n'étaient point favorables. Dans une cérémonie publique, la victoire d'or de Cassius, qui était portée en pompe, tomba à terre, celui qui l'a portée ayant fait un faux pas. Une multitude d'oiseaux de proie tournoyaient chaque jour sur son camp, n'étendant pas leur vol à ceux d'Octave et d'Antoine. Ce qui voulait dire que là serait le carnage. Des essaims d'abeilles se rassemblaient dans certains endroits des retranchements, et les devins, voyant la crainte qu'inspirait cet augure, les firent mettre hors de l'enceinte. Aussi Cassius n'avait-il plus le même empressement à livrer bataille, émettant cet avis de traîner la guerre en longueur et s'appuyant sur ce que, bien munis d'argent, ils étaient fort inférieurs en nombre. Brutus, au contraire, ne pensait qu'au salut et à la liberté de Rome. Peut-être plus détaché de la vie que son compagnon, Brutus était pour une bataille prompte et décisive. Ce qui lui inspirait une grande confiance, c'est que, dans toutes les rencontres et dans toutes les escarmouches qui avaient eu lieu, sa cavalerie avait toujours eu l'avantage. De notre côté, il constatait que chaque jour, de nouveaux déserteurs passaient dans le camp d'Octave, et comme beaucoup dans l'armée étaient soupçonnés de vouloir suivre cet exemple, il insistait d'autant plus ardemment pour une bataille prompte. Ces considérations avaient une telle importance que la plupart des amis de Cassius passèrent à l'avis de Brutus. Il est vrai qu'un des amis de Brutus, Attilius, était d'avis contraire, proposant, lui, de différer jusqu'à l'hiver. « Et que gagneras-tu de différer encore 6 mois ?» lui demanda Brutus. « J'y gagnerai, répondit Attilius, de vivre 6 mois de plus. » Ce n'était point là une de ces réponses qui pouvait plaire à Brutus ni le convaincre. Cassius lui-même l'improuva, les autres chefs s'en indignèrent et la bataille fut résolue pour le lendemain. Octave apprit cette résolution par des déserteurs. Il ordonna dans son camp un sacrifice expiatoire et fit distribuer à ses soldats une petite mesure de blé et 5 drachmes par tête, 4 francs à peu près. Brutus, de son côté, purifia son armée, distribua grand nombre de victimes et donna 50 drachmes, à peu près 45 francs, à chacun de ses soldats. Pendant le sacrifice même, Cassius eut un dernier signe néfaste. Le licteur qui portait les faisceaux devant lui lui présenta la couronne à l'envers. Aussi, tandis que Brutus, rempli de magnifiques espérances, s'entretenait en soupant de matières philosophiques, et après le souper allait prendre du repos, Cassius, c'est Messala, le même Messala qui, avec Horace, avait suivi Brutus d'Athènes, qui raconte la chose, Cassius soupa dans sa tente avec un petit nombre d'amis, et fut pendant tout le souper sombre et taciturne, ce qui était contre ses habitudes. Enfin, après le souper, prenant les mains de Messala, « Messala, lui dit-il, je te prends à témoin qu'ainsi que le grand Pompée, je suis forcé par ceux qui m'entourent de mettre au hasard d'une bataille le sort de ma patrie, et pourtant nous avons bon courage et grande raison d'espérer dans la fortune, dont, grâce à nos ressources, nous aurions tort de nous défier, même ayant pris le mauvais parti, et les dieux savent au contraire que nous sommes pour la justice et la liberté. » À ces mots, il embrassa Messala, mais celui-ci, « Cassius, dit-il, c'est demain le jour de ma naissance, j'ai soupé avec toi aujourd'hui, promets-moi de venir souper avec moi demain. » Cassius se contenta de répondre affirmativement par un signe de tête et avec un triste sourire. Le lendemain, dès que le jour parut, on éleva dans les camps de Brutus et de Cassius le signal de la bataille, qui était une côte d'armes de pourpre, et s'avançant chacun de son côté, les deux chefs entrèrent en conférence au milieu même de l'espace qui séparait leurs deux camps. Cassius prit le premier la parole. C'était le plus âgé des deux, et Brutus lui accordait toujours beaucoup de respect. « Brutus, lui dit-il, fasse les dieux que nous remportions la victoire et que nous passions le reste de nos jours ensemble, en paix et en joie. Mais comme les événements qui intéressent le plus les hommes sont en même temps les plus incertains, et que, si l'issue de la bataille nous est contraire, il nous deviendra difficile de nous retrouver, dis-moi d'avance ce que tu feras. Fuiras-tu? Te tueras-tu? » « Ami, répondit Brutus avec le même calme que s'il soutenait une thèse philosophique, Lorsque j'étais encore jeune et sans beaucoup d'expérience, je composais, sans trop savoir pourquoi, un long discours dans lequel je blâmais Caton de s'être donné la mort. Je disais qu'il n'était ni religieux ni brave de se soustraire à l'ordre des dieux, et que prendre la fuite hors du combat ou hors de la vie, c'était toujours prendre la fuite. Notre situation présente me fait penser différemment, et je crois que j'avais tort. Ainsi donc, si la divinité ne donne pas à cette journée une heureuse issue pour nous, je suis résolu de ne plus tenter de nouvelles espérances, ni de nouveaux préparatifs de guerre. Vaincu, je me délivrerai de toutes mes peines en rendant grâce à la fortune, car depuis qu'aux îles de Mars j'ai donné mes jours à la patrie, j'ai mené et soutenu par mon dévouement à sa cause une vie moins libre que glorieuse. Cassius sourit alors et embrassant Brutus, « Puisque nous partageons les mêmes sentiments, dit-il, allons hardiment à l'ennemi, car nous risquons maintenant d'être vainqueurs sans avoir à craindre d'être vaincus. » Puis ils ne dirent plus un mot de leur mort, s'entretenant en présence de leurs amis, à qui ils avaient fait signe de les joindre, de l'ordonnance de la bataille. Brutus demanda à Cassius le commandement de l'aile gauche. Cassius le lui accorda, lui donna Messala avec sa légion la plus aguerrie pour combattre à cette aile, réparant ainsi, autant qu'il le pouvait, les torts que son esprit inégal et violent pouvait avoir eus depuis les îles de Mars pour l'esprit patient et doux de Brutus. Investi du commandement de l'aile gauche, Brutus fit sortir aussitôt des retranchements sa riche et splendide cavalerie et mit son infanterie en bataille. Les soldats d'Antoine ne pouvaient croire à une attaque. Ils tiraient des tranchées depuis les marais près desquels ils campaient jusque dans la plaine afin de couper à Cassius le chemin de la mer, car Octave et Antoine n'étaient point sans inquiétude sur la magnifique flotte que Brutus et Cassius possédaient dans la mer Égée. Quant à Octave, il était malade de corps, ou plutôt de cœur, et s'était éloigné du camp, son sacrifice expiatoire accompli. Ses troupes, pas plus que celles d'Antoine, ne s'attendaient qu'on en vînt à une bataille. On croyait seulement à une escarmouche entre quelques archers et les travailleurs. Il ne devait pas en être ainsi. Brutus, après avoir fait passer à tous les capitaines de petits billets où était écrit le mot d'ordre, parcourait à cheval tous les rangs, animant les soldats à bien faire. Mais le mot qu'il donna, quoique donné à voix haute, ne fut entendu que de bien peu, car la plupart, sans même l'attendre, étaient déjà partis et fondés sur les troupes d'Octave en poussant de grands cris. Il résulta du désordre avec lequel ils chargèrent qu'il se fit de grands vides entre les légions. D'abord, celle de Messala, emportée par son élan, outrepassa l'aile gauche d'Octave sans faire autre chose qu'écorner les derniers rangs et renverser quelques soldats. Elle poussa en avant jusqu'au camp où elle arriva au moment où Octave venait de la quitter, prévenu par un songe, dit-il lui-même dans ses mémoires. Ce songe, ce n'était pas même le prudent impérator qui l'avait fait, c'était un de ses amis, Marcus Sertorius. Ce songe donnait avis à César de s'éloigner à l'instant même des retranchements. Il en résulta qu'Octave s'enfuit sans perdre un instant, et ce fut alors que l'on put voir combien les songes sont choses utiles, puisque sa litière, où l'on pensait qu'il s'était renfermé, fut criblé de coups de traits et de piques. Tous ceux qui furent surpris dans le camp furent mis à mort, et au nombre de ceux-ci se trouvaient 2000 lacédémoniens auxiliaires qui venaient d'arriver au camp. Les autres troupes de Brutus, celles qui, ne dépassant pas les soldats d'Octave, se trouvèrent les avoir de face, celles-là renversèrent facilement tout ce qui se trouva devant elles et taillèrent en pièces 3 légions. Puis, voyant que rien ne leur résistait plus, elles se jetèrent pêle-mêle dans le camp avec les fuyards. Brutus combattait avec elles et au premier rang. Seulement, ce mouvement agressif laissait dans sa précipitation l'aile gauche complètement isolée. Les vaincus s'en aperçurent. Ils laissèrent Brutus et ses soldats s'emporter à la poursuite des fuyards, se réunirent, tombèrent sur l'aile gauche, la renversèrent et la mirent en fuite. Cette portion de l'armée ignorait la victoire de l'aile droite et, se croyant complètement abandonnée, résista à peine. Pendant ce temps, chose étrange, Octave avait disparu d'un côté et Antoine de l'autre. Nous avons dit ce qu'était devenu Octave. Quant à Antoine, voulant, dit Plutarque, éviter l'impétuosité du premier choc, Il s'était, dès le commencement de l'action, retiré dans un marais voisin. L'histoire d'Antoine, de ce prétendu descendant d'Hercule, est pleine de ses défaillances. Une le prend à Actium et il fuit, une autre à Alexandrie et il se tue. Ainsi, de chaque côté et presque en même temps, la journée était décidée. Brutus était vainqueur, Cassius était vaincu. Or, chacun d'eux ignorait le sort de l'autre. Si Brutus eût su Cassius vaincu, il eût été à son secours. Si Cassius eût su Brutus vainqueur, il n'eût pas désespéré. Et Brutus était bien vainqueur, mais cela donne une preuve irrécusable de sa victoire. Brutus, dit-il, avait pris 3 aigles et plusieurs enseignes, et n'en avait point perdu une seule. Aussi Brutus, revenant après la victoire, fut-il surpris outre mesure, ne doutant point que Cassius ait eu la même fortune que lui. Aussi Brutus, disons-nous, fut-il surpris outre mesure de ne pas voir le pavillon de Cassius dressé comme de coutume, car le pavillon, placé sur une hauteur d'abord, puis en outre très élevé par lui-même, s'apercevait de loin. Ce qui augmentait encore son étonnement, c'est qu'il ne voyait pas non plus les autres tentes, la plupart ayant été abattues et mises en pièces par les soldats d'Antoine. Ceux qui se vantaient d'avoir une bonne vue prétendaient cependant distinguer des armes étincelantes sur l'emplacement même où était le camp de Cassius. Mais, à leur avis, les armes étaient celles des soldats d'Antoine. Il est vrai, ajoutait-il, que si ces soldats eussent été ceux du triumvir, on verrait sur la plaine de plus grandes traces de carnage que celles que l'on y apercevait. Toutes ces conjectures contradictoires versèrent le doute dans l'âme de Brutus. Laissant donc une bonne garde dans le camp des ennemis, il rappela ceux qui poursuivaient les fuyards et les rallia pour marcher avec eux au secours de Cassius si, comme il commençait à le craindre, Cassius avait été battu. Or, voici ce qui s'était passé du côté de Cassius. Celui-ci avait vu avec un profond regret, mêlé d'une certaine terreur, les troupes de Brutus se précipiter comme elles l'avaient fait sur l'ennemi. Cette terreur s'augmenta quand il vit ses troupes s'amuser à piller le camp d'Octave au lieu de se rabattre sur l'aile droite du triumvir. Mais, en considérant et en déplorant la faute que commettait l'armée de Brutus, il perdit lui-même un temps considérable, ce qui, bien plus que la trop grande hâte de son collègue, donna aux généraux ennemis le temps de l'envelopper. Ajoutez qu'au premier choc de la cavalerie d'Octave, la cavalerie de Cassius se débanda et prit la fuite du côté de la mer. L'infanterie, ébranlée par cette panique, commença d'en faire autant. Cassius se jeta dans les rangs pour l'arrêter, saisit l'étendard d'un porte-enseigne qui fuyait, le planta devant lui et là le défendit sans reculer d'un pas jusqu'à ce qu'il se vît abandonné par sa propre garde. Forcé alors de s'éloigner, il se retira en combattant, ralliant un petit nombre de ses plus braves et plus fidèles soldats, et, pied à pied, il se retira sur une éminence du haut de laquelle il dominait tout le champ de bataille. Mais lui-même, à cause de sa courte vue, ne pouvant voir ce qui se passait, fut forcé d'interroger ceux qui l'entouraient. Ceux qui l'entouraient répondirent qu'ils voyaient un gros de cavalerie qui s'avançait au galop. Ce gros de cavalerie, c'était la troupe que Brutus envoyait à son secours. Seulement, les amis de Cassius la prirent pour la cavalerie d'Antoine et se crurent poursuivis. Alors Cassius appela un de ses officiers, nommé Tintinius, et lui donna l'ordre de s'en assurer. Titinius partit au grand galop. Les amis de Cassius suivirent des yeux le cavalier. Titinius était bien connu des soldats de Brutus. Aussi, à peine ceux-ci l'eurent-ils reconnu, qu'ils poussèrent de grands cris de joie et s'élancèrent au-devant de lui à fond de train, lui demandant des nouvelles de Cassius, de sorte qu'en un instant, Tintinius disparut au milieu de ceux qui l'entouraient. Le malheur voulut qu'à la distance où Cassius se trouvait du gros de cavalerie qui venait de faire fête à son envoyé, il fut impossible de rien voir ni entendre distinctement, de sorte que Cassius et ses amis crurent que Tintinius était tombé aux mains des soldats d'Octave. Or, comme le gros de cavalerie, un instant arrêté, avait repris sa course et se dirigeait vers l'éminence où attendait Cassius, celui-ci crut qu'il était poursuivi et que ceux-là qui lui apportaient le salut venaient au contraire lui apporter la mort. Alors Cassius se retira dans une tente abandonnée, y entraînant avec lui un de ses affranchis nommé Pindarus, que depuis la défaite de Crassus à laquelle, on se le rappelle, Cassius avait assisté, il avait gardé près de lui, comme on garde du poison dans un anneau, un poignard dans une gaine. Or, tendant le cou au glaive de la franchie, « Ami, lui dit-il, l'heure est venue de me rendre le dernier office pour lequel je t'ai gardé. La liberté est morte, je ne veux pas lui survivre. Frappe !» La franchie frappa, et si violemment, que la tête roula, séparée du corps. Puis, effrayé lui-même de ce qu'il avait fait, il s'enfuit et disparut, sans que nul ne puisse jamais dire ce qu'il était devenu. Plus tard, beaucoup crurent que Pindaruse avait tué son maître sans en avoir reçu l'ordre. Mais cette opinion demeurera toujours à l'état de doute. Tintinius, qui précédait la cavalerie de Brutus pour annoncer la bonne nouvelle à son général, et qui s'était ceint le front d'une couronne de laurier, afin que de loin Cassius vît cet emblème de victoire, arriva sur l'éminence et appela inutilement. Personne ne lui répondant, il sauta à bas de cheval et se mit à chercher. En entrant sous la tente dont nous avons parlé et qui avait abrité le drame mystérieux qui venait de se passer entre Cassius et Pindarus, il heurta du pied une tête. C'était celle de Cassius. Alors il prit sa couronne, la posa sur le corps de son général, tira son épée et se tua pour se punir lui-même de sa lenteur. Mais la cause de la liberté n'avait pas encore perdu Brutus, le côté fort et stoïque du parti. Voyons ce que va devenir Brutus.